Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. La fraîcheur. Si je devais résumer cet épisode, ce serait avec ce mot. Marion, elle a un peps communicatif et elle parle de son métier avec beaucoup d'envie. Monitrice éducatrice, au parcours varié, aujourd'hui elle œuvre dans le champ du handicap et plus précisément dans celui de l'autisme. Un monde dont on ne parle pas assez, avec des codes bien particuliers et une expertise nécessaire pour accompagner ces personnes aux besoins extraordinaires. Je vous laisse avec elle et son regard neuf sur le travail social. Belle écoute! Bonjour Marion.
Bonjour Camille.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast La Voix des Invisibles. Je sais que c'est pas un exercice facile pour toi, mais du coup, j'espère t'amener, te porter un petit peu pendant toute cette interview. Je vais du coup te demander de te présenter. Donc, tu nous as dit ton prénom, Marion. De quelle formation initiale tu es, quel âge tu as et en tout cas, depuis quand tu œuvres dans le social ?
Moi, je suis monitrice éducatrice de formation. J'ai 27 ans et Je suis dans le social depuis 2017.
D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Tu sais, un petit peu, tu te rappelles ?
Alors, quand j'étais petite, j'avoue que j'ai eu l'idée de faire dermatologue.
Ok.
Des choses comme ça. Voilà, bon, la vie a fait que je me suis tournée vers autre chose et c'est pas plus mal.
D'accord. Et donc, à quel moment tu t'es dit, tiens, le social, ça peut être sympa ?
Alors, il y a eu tout mon parcours de vie aussi personnel où voilà, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui était en situation d'handicap.
Ok.
Et aussi, j'ai pu faire une formation dans l'animation assez jeune quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai passé un BAFA et ça m'a ouvert des portes dans l'animation sportive de quartier. Du coup, en fait, voilà, j'ai mis direct un pas dans, on va dire, dans un domaine du social. Et ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'ai découvert toute la diversité d'un public, de jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes.
Voilà. Ok, d'accord. Une bonne entrée en matière, le BAFA, effectivement. Parfois, ça peut faire découvrir tout un milieu et des façons de fonctionner. Avant d'être monitrice éducatrice, avant de rentrer à l'école, on fait un petit stop juste avant. Qu'est-ce que tu fais, du coup ?
Alors, avant de me lancer et passer le concours, j'ai pu rentrer en fac de sport parce que le sport adapté m'intéressait. Bon, je me suis vite aperçue qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Donc, j'ai choisi d'arrêter. J'ai fait quelques voyages très enrichissants, surtout du côté de l'Asie.
Ok.
Et ensuite, quand je suis rentrée, je me suis attelée directement au concours que j'ai eu du premier coup.
Ok. Donc, tu vises ME. Moniteur éducateur,
voilà.
Direct. C'était un choix arrêté de ta part. Pourquoi c'était un choix plutôt ME que autre chose ?
Alors, dans la fiche métier, on va dire qu'il y avait beaucoup en fait d'actes dans la vie quotidienne des usagers, et c'est ça qui m'a le plus attirée.
D'accord. Pour qu'on précise un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément le métier de moniteur-éducateur, le moniteur-éducateur, sur les foyers, institutions de prise en charge en tout cas, il est quand même plus tourné vers le quotidien, la prise en charge au quotidien. Donc tout ce qui peut être activité collective, mais aussi les repas, les soins, etc.
Ok. Voilà.
D'accord, donc t'as quel âge quand tu passes le concours ?
Alors du coup, 2015, on est en 2022, j'avais 22 ans, 21 même, ouais.
21 ans, ça marche. Tu passes le concours, donc tu rentres à l'école en septembre. Comment tu abordes le fait de rentrer dans le centre de formation? Dans quelle prédisposition tu es? Comment tu vois un peu les choses?
À vrai dire, je me suis pas posé beaucoup de questions. Je suis arrivée assez décontractée pour une nouvelle expérience. Et voilà, j'attendais vraiment qu'il m'apporte en fait des apports théoriques, mais aussi pratiques au final avec les stages. Et je voulais vraiment découvrir plusieurs publics et plusieurs secteurs du social.
Justement, tes stages, du coup, tu les fais où?
Alors, mon premier stage, je l'ai fait dans une école hors contrat. Donc, okay. Souvent, c'était des enfants scolarisés. Voilà, phobie scolaire, dyslexie. On va dire les enfants qui rentrent pas dans le moule.
Ok.
Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai pu un peu voir la scolarité adaptée à chacun avec des effectifs réduits. Moi, mon rôle, c'était de vraiment être dans l'apprentissage scolaire avec certains jeunes, leur apporter des billes, les rassurer lorsqu'il y avait des phobies scolaires ou à l'époque, souvent, il y en avait qui ont subi de l'harcèlement scolaire aussi.
Okay.
Donc, voilà, c'est les soutenir un peu dans leur projet, dans leur scolarité, surtout. Et
ça, c'est ton premier stage.
C'est mon premier stage, donc voilà.
Quelle conclusion tu te dis à la fin du stage OK, je suis à ma place ou je ne sais pas trop.
Alors, la conclusion que je me suis dit, c'est... que je me suis faite, c'est vraiment le moniteur éducateur a totalement sa place, même si je pense que plusieurs de mes prédécesseurs ont pu penser le contraire. Moi, je trouve que c'est nécessaire d'avoir des moniteurs éducateurs et éduxpé au sein de ces classes-là, parce qu'en fait, il y a des profils très différent et je pense que l'éducatif a totalement sa place dans ces classes.
Complètement.
Voilà, donc non, vraiment enrichissant et c'est un stage auquel je ne m'attendais pas du tout. Au début, je me disais, qu'est-ce que je vais faire là-bas?
C'est
voilà,
vrai
c'est,
que c'est, pas convain,
c'est pas anodin.
C'est pas conventionnel,
voilà, effectivement. Voilà, c'est pas des stages auxquels on s'attend. On s'attend à de la protection de l'enfance, des choses un peu qui sont visibles pour tous.
Okay.
Et là, pour le coup, ces écoles-là, voilà, on n'en entend pas beaucoup parler ou les gens qu'on entend parler, c'est qu'ils ont fait face à une problématique avec leurs enfants, en fait.
Ok. Ton deuxième stage, parce qu'il me semble que les moniteurs éducateurs, vous avez deux stages en première année.
Oui, et un troisième,
et un troisième en deuxième année.
Ouais,
ok,
voilà.
Donc ton deuxième stage.
Alors, mon deuxième stage, c'était en CHRS.
Ok.
Voilà, pour des personnes seules, adultes.
Ok.
Voilà.
Donc CHRS, on va préciser parce que c'est notre jargon dit social, centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Tout
ok, pour des personnes seules,
voilà.
Adultes, donc 18, il y avait un âge de fin?
Non.
Ok.
Et voilà, c'était de l'hébergement d'urgence pour des personnes marginales.
Ok.
Là aussi, de mon jeune âge, je suis arrivée dans ce centre et je me suis dit, mais comment ces personnes-là, avec un parcours tellement difficile, vont me prendre au sérieux en se disant, écoute, t'as 21 ans, tu vas rien m'apprendre de la vie. C'est vrai que... Arrivée là-bas, voilà, je me suis posé plein de questions. Est-ce que ça va passer avec eux? Est-ce que le feeling va passer? Est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Quelles difficultés je vais avoir là-bas? Parce que il faut se dire que aussi dans ces centres d'hébergement, on peut être confronté à beaucoup de violences. Souvent ils se réfugient, dans dans l'alcool, pas tous, hein, pas tous.
Des consos diverses, en tout cas.
Voilà, des addictions qui se développent parce que au final, leurs journées sont très longues.
Ils sont remplies de vide.
C'est ça. Et ça, on peut pas leur en vouloir. Je pense que il y a personne qui peut se mettre à leur place. Mais voilà, en tout cas, c'était hyper enrichissant. J'ai pu quand même monter certains projets.
Okay.
Voilà, j'ai vraiment noué des liens assez forts avec les résidents de ce centre, en tout cas. Au début, je pense que c'était un petit peu plus difficile, voilà, de mon jeune âge, je pense, de me dire, je vais faire avec ce que j'ai et on va voir comment ça va passer, quoi. Après, ça se fait naturellement, je pense. Il faut avoir la fibre du saut, c'est ça.
C'est ça, tu commences par un public où effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Est-ce qu'ils vont accepter que je les accompagne un petit peu?
C'est ça.
C'est drôle parce qu'on se dit plus, est-ce que moi, je vais tenir la route?
Oui.
Plutôt que se dire, je vais être un peu le moteur à un moment donné pour eux parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin qu'on les accompagne peut-être de façon un peu plus soutenue parce qu'effectivement, ils sont à la marge de tout. Mais on a souvent cette position de se dire, est-ce que c'est moi qui va faire l'affaire?
C'est ça,
en fait.
C'est ça.
Ok, ta première année du coup de formation, qu'est-ce que tu te dis en la validant? Allez, vivement la deuxième ou voilà, quel ressenti tu as sur la première année?
Ça s'est déroulé naturellement. Après, la deuxième arrivait. Après, je sais que à l'IRTES, on avait une très bonne promo.
Ok.
On a bien rigolé. Donc c'est vrai que. Au-delà de l'aspect que ça soit enrichissant au niveau des nouvelles connaissances qu'on a pu prendre à l'IRTES et puis les stages, il y avait aussi toute cette ambiance, je trouve, qui est importante, en fait.
Nécessaire, presque.
Oui, nécessaire.
Non, oui, pour se construire, mais aussi pour se soutenir à un moment donné.
C'est ça. Tout à fait, parce qu'on arrivait tous avec nos expériences de stage, où on pouvait un peu revenir dessus. Et en même temps, c'est l'IRTES, c'était entrecoupé. On se quittait quelques semaines, après on se retrouvait. C'était une ambiance quand même relativement sympa. Du coup, ça s'est déroulé en fait naturellement. On a tissé tous des liens plutôt sympas.
Ok, tu gardes des liens depuis ?
Oui.
Depuis, vous racontez très souvent peut-être ce que vous faites maintenant professionnellement. Vous êtes encore dans le partage de ce genre de choses ?
Oui, on est encore dans ce partage d'expérience encore.
Si on remonte un petit peu, du coup, ton stage, troisième stage de deuxième année, tu le fais où?
Alors, mon troisième stage, je l'ai fait en IME, donc Institut Médico-Éducatif.
Okay. Merci pour la précision.
Je t'en prie. Spécialisé dans l'autisme.
Ok. Est-ce que tu peux, pour ceux encore qui ne savent pas forcément ce que c'est l'autisme ou ce que vraiment on en met derrière. Quelle problématique, quel profil de personne ça peut être? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu?
Alors, les enfants et adultes ayant des troubles du spectre autistique, ce sont des personnes en situation d'handicap, qui peuvent souvent avoir des difficultés dans l'interaction sociale avec les autres, mais également avoir des sensibilités sensorielles qui peuvent vraiment les handicaper dans leur vie de tous les jours. Et avec ce public-là, il faut être très rigoureux. Il faut connaître la personne et connaître ses habitudes assez rapidement.
Oui. Pour pouvoir respecter un peu si elle a des habitudes, des rituels.
C'est ça.
Beaucoup.
Souvent, c'est beaucoup de rituels. Ils ont besoin des fois, comme après, je parle d'enfants aussi, mais d'adultes, comme beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup besoin aussi de supports visuels qui peuvent les aider dans leur quotidien, cadrer leur journée.
Pour les aider à comprendre, en fait, ce qui les entoure, les fameux pictogrammes, voilà. Sûrement. Okay.
Tout à fait. Pour qu'ils comprennent et puis pour que leur quotidien soit structuré et du coup ça puisse faire un peu redescendre leur angoisse et toutes leurs difficultés en fait dans leur journée.
Ok.
Voilà.
Donc là, t'arrives, j'essaie de compter, mais t'as à peu près 22 ans, c'est ça ? 22, 23 à peu près, dans ce stage,
stage 3
de la deuxième année. Est-ce qu'on te confie des responsabilités, vu que c'est ton dernier stage ? Est-ce qu'on te considère comme, ça y est, t'es en fin de formation, t'es presque professionnel, donc vas-y ? Ou est-ce que t'as encore l'opportunité d'être plus en doublure, en observation.
Après dans mes stages, j'ai souvent été active.
Ok.
J'avais ma période d'observation qui est nécessaire et indispensable. Et ensuite, j'étais souvent active et fort de propositions aussi. Expérimenter des choses avec l'aval de l'équipe en parlant avec tout le monde bien sûr et en prenant en compte toutes les difficultés du public. Dans le troisième stage, j'ai eu ma période d'observation qui était nécessaire parce que au final comme je le dis dans l'autisme là il faut connaître relativement bien les jeunes avant de s'attaquer à quoi que ce soit.
Et puis en plus, tu peux connaître, je ne sais pas, vous aviez des groupes de combien de jeunes à peu près ?
Alors ça dépendait des groupes, mais ça pouvait aller de 3 à 6, 7.
Okay. En gros, tu peux connaître les habitudes de 7 jeunes. Il y en a un qui part, un qui rentre, il faut que tu réapprennes. En fait, ça donne une autre dynamique au groupe où tu dois avoir une attention particulière tout le temps et connaître les habitudes d'une personne individuelle. Ça demande effectivement énormément de rigueur.
Et d'où le taux d'encadrement dans l'autisme qui est plus élevé aussi.
Vous étiez combien là ? Alors, tu ne te comptes pas en tant qu'étudiante en formation, mais combien il y avait de professionnels un petit peu dans...
Alors, par exemple, il faut savoir que souvent sur les groupes, c'était par groupe de niveau et d'interaction sociale,
d'accord,
ce qui est le plus pertinent pour les jeunes, pour leur évolution et aussi par rapport à leur centre d'intérêt. Oui, ça j'ai oublié de le préciser, les personnes ayant des troubles du spectre autistique ont souvent des centres d'intérêt assez restreints.
Ok, mais très, restreints mais où c'est très intense avec le ou les centres d'intérêt qu'ils ont en fait. Il y a une espèce de passion, une espèce
c'est
de...
C'est ça,
okay.
Alors après, voilà, il y a des profils totalement différents. Il y en a, des personnes autistes Asperger, comme on peut souvent en entendre parler. Et souvent, les gens ne connaissent que cette partie de cet handicap.
Asperger, c'est... Il y en a beaucoup qui se disent autiste Asperger égale personne très intelligente. Mais il n'y a pas que ça.
Mais il n'y a pas que ça. Et ils ont aussi leurs difficultés. Souvent qui sont camouflés parce qu'ils arrivent à compenser dans leur journée, mais arriver le soir chez eux, ça peut être
très compliqué. Oui, tu m'étonnes.
Du coup, on a perdu le fil de la question.
Vous étiez combien un petit peu par groupe ?
Oui.
Voilà, c'était ça, parce qu'on parlait du taux d'encadrement.
Par exemple, pour un groupe de 3 jeunes, souvent, il y avait 2 éduques.
Ok,
donc,
d'accord.
À peu près après ça dépendait des difficultés parce que voilà il y en a aussi qui ont des troubles du comportement qui peuvent être assez importants aussi donc là sur ces groupes là forcément il y a plus d'éduques. En tout cas, le taux d'encadrement est beaucoup plus élevé que dans un IME ordinaire ou autre institution.
ça marche? Tu t'y plais dans ce stage? Tu t'y retrouves par rapport à la construction de ton projet, enfin l'éveil que tu avais par rapport à la sensibilité que tu avais par rapport à une personne de ta famille qui était porteuse d'un handicap? Est-ce que là, du coup, ça fait sens pour toi?
Oui, alors oui, ça fait sens. Et puis d'autant plus que j'ai pu aussi découvrir auparavant d'autres secteurs du social. Donc c'était vraiment complémentaire.
Ouais.
Après, voilà, c'était un peu inné, je pense, chez moi. Mais après, voilà, il y a toute cette période où, du coup, d'observation qui m'a beaucoup aidée. Et après, vraiment, oui, j'étais assez... je pense que j'étais un membre de l'équipe à part entière. Et j'ai pu, là, encore une fois, un peu mettre des projets en place pour... à viser vraiment l'épanouissement des jeunes, tout en prenant en compte là leur projet personnalisé.
Tu retrouves le côté quotidien que tu es venu chercher justement dans cette formation, d'être là sur des temps forts de la journée des personnes?
Oui, oui, et surtout que cette CME où j'ai pu travailler, y avait un hébergement. Donc,
okay.
Donc certains enfants restaient le soir. Donc vraiment, voilà, on les accompagnait vraiment dans les actes de la vie quotidienne. Ça partait d'un simple habillage à faire des apprentissages scolaires avec eux, faire une sortie sur l'extérieur pour vraiment les insérer dans la société et leur faire découvrir aussi autre chose.
Ok. Oui, donc c'est quand même très, très global.
Voilà,
encore.
C'est ça.
Ok. Tu termines cette deuxième année, tu es diplômée du
oui.
premier coup.
Oui.
Quelle a été ta première expérience professionnelle une fois diplômée? Où est-ce que tu as œuvré?
Alors ensuite, j'ai continué dans cette IME à travailler.
T'es
apparemment, embauchée. Je faisais l'affaire.
T'es embauchée pour l'été en remplacement?
Voilà,
okay.
En CDD.
D'accord.
Voilà, et souvent je faisais des remplacements longs. Et en parallèle, quand il y avait une petite coupure, j'ai pu aller en protection de l'enfance
okay.
Sur un groupe d'adolescents.
Ok.
Voilà, c'était en plus assez. C'était encore une nouvelle expérience parce que c'était assez familial. On était dans une maison, chacun avait sa chambre. Et après, voilà, il y a vraiment toute cette dimension un peu plus juridique, on va dire, maintenant dans ce secteur-là, que j'avais découvert auparavant, mais encore plus.
Okay.
Voilà, en étant vraiment dans le quotidien des jeunes et en étant assidue au niveau des écrits, forcément. Des écrits professionnels qu'on pouvait communiquer au juge
okay.
De l'enfance et etc.
Tu fais ça combien de temps un peu l'alternance entre l'IME ou voilà le secteur handicap, la protection de l'enfance, combien de temps tu...
Je dirais 2 ans à
okay,
peu près,
quand
voilà
même.
Comme ça, ouais,
ouais
2 ans. Alors après, moi j'y trouvais mon compte d'être en CDD parce que au final il y avait une confiance quand même qui m'était accordée et du coup j'avais mes suivis
okay.
J'avais des jeunes où j'étais tutrice
de certains jeunes.
J'y trouvais mon compte parce que je trouvais pas ça monotone et je trouve qu'on a besoin d'avoir un certain recul sur notre pratique. Et moi, ces deux expériences un peu parallèles
oui.
Ont fait que, je quittais le secteur du handicap, j'allais en protection de l'enfance, oui. Je me reposais d'autres questions, je changeais de public, il y avait d'autres difficultés. Et en même temps, tout ça peut être tellement complémentaire, en fait.
Du coup, tu devais transposer des pratiques et te dire « Ah bah tiens, là-bas, je fais comme ça. Là, ok, c'est pas le même public, mais ça reste un fonctionnement foyer, internat, etc.
Mm-mm.
Donc tiens, je transpose. » Le remplacement, du coup, que tu cumulais un peu en parallèle en protection de l'enfance, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'âge des personnes, des jeunes
Alors, ils avaient entre 14 et 17 ans, il me semble.
Ouais, c'est ça. Plutôt des grands, du coup. Okay.
Plutôt des grands, donc on essayait de les maintenir dans leur scolarité. Il y avait certains jeunes qui avaient des projets aussi professionnels, qui commençaient à s'activer.
Oui, 17 ans,
c'est ça.
Un peu de pression.
C'est ça. Et puis, en fait, en protection de l'enfance, on retrouve des profils très différents. Et il faut savoir composer avec tous et essayer de créer des liens pour que, en fait, il y ait une bonne dynamique de groupe. Ça, en fait, c'est l'essentiel pour que on puisse ne perdre personne en cours de chemin.
Quelles sont les problématiques un petit peu auxquelles tu es confrontée avec ces jeunes en protection de l'enfance? Déjà, pourquoi ils sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance? Et les problématiques que tu constates un peu sur le collectif, en tout cas sur la prise en charge?
Alors, pour ces jeunes, souvent une rupture un peu familiale.
Okay.
Avec des jeunes qui développent qui peuvent développer des comportements violents après sur le collectif par moment. Et souvent, des enfants qui se sentent abandonnés et qui ont du mal avec le cadre.
Ouais.
Donc, mettre un petit peu, tout doucement, des fois il faut y aller à tâtons avec certains jeunes et ne pas être trop brusque. Mais en tout cas, je pense que vraiment c'est nécessaire pour eux de leur ramener un nouveau cadre
qui soit contenant mais adaptable.
Ça. Il faut que ça soit contenant et rassurant pour eux aussi, mais s'adapter à chacun.
Bien sûr.
Ça.
On n'a pas précisé, mais c'était mixte, filles-garçons.
Oui, c'était filles-garçons. Ah
d'accord.
Oui, et aussi cette petite
mais qui n'est pas
problématique aussi.
À l'adolescence,
voilà.
Qui n'est pas une moindre...
C'est ça.
De moindre questionnement sur comment on gère des ados de 14 à 17 ans placés dans une même maison sur un groupe.
C'est
jour
ça.
Et nuit.
Voilà. Et on a aussi... souvent, on en oublie... les gens... Hors social peuvent oublier qu'on a des comptes aussi à rendre et beaucoup.
On est un juge au-dessus de la tête, accessoirement. Et des parents, qui ont leur place, qui veulent prendre ou pas, mais ils sont là quand même.
Ah oui, et ça, en tout cas, c'est... Pour moi, il ne faut jamais lâcher la parentalité. C'est quelque chose où il faut toujours laisser accès. Le problème initial, il faut aussi un peu des fois l'occulter, on va dire, nous, dans notre pratique, parce que il faut quand même qu'on reste assez impartial.
Ouais, neutre.
Il faut vraiment laisser cette place aux parents, qui, des fois, ça peut être difficile, mais voilà, il faut pas que les enfants oublient aussi tout ce qui s'est passé avant.
Est-ce que du coup, tu as pu expérimenter un peu des visites médiatisées? Voilà, une visite médiatisée, c'est un parent qui vient visiter son enfant dans un lieu, dire safe, mais voilà, c'est sécure, etc. Bien
neutre,
déterminé,
un
neutre.
Lieu bien neutre. Ouais.
Est-ce que ça, tu as pu. Et que la visite, pardon, du coup, c'est là où je voulais préciser, c'est qu'elle est encadrée par des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des travailleurs sociaux en général, pour accompagner l'échange entre l'enfant et le parent ou les enfants s'il y a une fratrie. Est-ce que toi, tu as pu un petit peu voir ça pendant tes expériences en protection de l'enfance?
Oui, alors j'ai pu assister à une visite. C'est vrai que nous, on fait beaucoup à ce moment-là, un peu de soutien à la parentalité. Mmh. En même temps, on essaie d'amener un cadre qui est rassurant et surtout mettre en fait le jeune à l'aise, quoi qu'il arrive. Il y a des visites qui peuvent durer plus ou moins longtemps.
Mm-hmm.
Mais l'essentiel, c'est de maintenir le lien, en fait.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est le vrai enjeu quand un enfant est coupé de son parent et que le parent et l'enfant sont OK pour se voir, c'est ben comment on maintient les choses alors qu'on sait qu'il y aura un début de visite, une fin et que la fin peut être assez déchirante pour tout le monde. Ouais, c'est un vrai enjeu. Du coup, tu fais tes remplacements, tes CDD entrecoupés, ça te convient et à un moment donné, tu dis ça me convient plus ou qu'est-ce qui se passe du coup?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement j'avais envie vraiment d'enrichir mon expérience dans l'autisme.
Ok.
Parce que, en fait, dans le secteur de l'autisme, y a tellement de formations, un panel de choses à voir. Vraiment, je trouve que ce domaine-là, pour moi, est très enrichissant. Et on a tellement, tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Pour le moment, je me suis orientée dans ce secteur, qui est quand même très particulier et puis...
spécialiste.
Voilà,
tu développes ton expertise sur l'autisme, le handicap.
Tout à fait. Donc tout simplement, je vois une offre d'emploi qui me paraît très intéressante et je postule. J'ai eu le poste.
Okay.
Donc, à l'heure actuelle, je travaille dans un PCPE.
Ok, là, en ce moment,
oui,
du coup.
Oui, en ce moment.
Est-ce qu'on peut dire PCPE, ce que ça veut dire?
Oui,
je suis chiante.
Tout à fait. C'est un pôle de compétences et de prestations externalisées. Donc, nos missions, en fait, se passent dans un milieu ouvert. Donc, on est amené à se déplacer à domicile, dans les lieux de vie du jeune, à l'école, pour vraiment apporter des billes aux aidants.
Okay.
Et puis adapter en fait le quotidien du jeune pour atténuer ses difficultés dans son quotidien.
Donc quand tu dis lieu de vie du jeune, c'est-à-dire que tu peux être amené à intervenir dans un IME par exemple, si
ça
le
peut,
jeune
oui.
est en IME, mais aussi au domicile des parents si le jeune est au domicile
c'est ça.
Des parents. Okay.
C'est ça. Et en fait, ces pôles ont été créés en fait pour essayer d'absorber les listes d'attente des CESAD.
Ok. Service, c'est quoi? Service éducatif. Ouais, ok. Spécial, je crois que c'est
oui.
ça le S. Il y a un deuxième S. Soins.
Oui.
Ouais. Ok, soins à domicile, du coup.
Voilà.
Ok, donc les CESAD, ils interviennent directement au domicile des parents, du coup.
Oui, voilà. Autre, okay. En fait, c'est un peu le même procédé. Ils peuvent intervenir dans les lieux de vie du jeune, où il a besoin.
Ok.
En fait, sauf qu'en fait, la petite différence, c'est que nous, on peut souvent intervenir pour des situations où il n'y a pas encore de solution
Déterminée. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place en IME,
d'accord.
Il n'y a pas de place en CESAD.
Peut-être qu'on précise le temps d'attente pour rentrer sur un IME, tu sais ou pas?
Ah,
j'ai eu l'info,
énorme.
Ouais, c'est 6 ans.
Voilà, c'est
ça. Pour un enfant qui n'a pas encore été en IME.
Voilà, tout à fait.
Ans.
Et c'est surtout que il faut savoir que souvent, les enfants ne sont pas diagnostiqués à
tout
quelques
suite.
Mois.
Oui, bien sûr.
Donc, ce qui fait qu'il y a des listes d'attente à rallonge. Et souvent, les parents se retrouvent avec leurs enfants à domicile pendant plusieurs années, jusqu'à 7, 8, 9 ans, voire
soit,
plus.
Qui est plutôt un diagnostic et qu'en plus, ils arrivent sur une liste d'attente qui se rapproche de la porte d'entrée, en tout cas, dans une institution.
Donc, après, je parle d'IME, mais ça peut être autre chose. Alors après... Il y a toujours l'alternative qui leur est proposée parce que tout enfant doit être scolarisé.
Mm-mm.
Et ils sont scolarisés, mm-mm. donc souvent avec une AESH à temps plein ou une aide en plus,
okay.
supplémentaire.
Dans ton nouveau travail, du coup, tu interviens auprès de ces personnes aussi pour leur donner des billes. Okay.
C'est ça, tout à fait. Et installer des aides visuelles pour leur scolarité, pour leur quotidien, pour tout simplement décortiquer le lavage des mains pour qu'ils apprennent à se laver les mains seuls. Je travaille vraiment avec des enfants Alors, ça peut être du plus jeune âge jusqu'à leur 25 ans.
25 ans, ok.
Donc, enfants et jeunes, du coup.
Ouais, du coup, jeunes adultes, effectivement, voilà. Qui pourraient être à un moment donné sans solution.
Tout à fait.
Et toi, ton PCPE, il est spécialisé dans l'autisme.
Oui.
Là, ok. Donc, tu es devenue une experte de l'autisme,
oh,
en
oui.
fait.
Apparemment.
Tu donnes des tips maintenant.
Je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais en tout cas, j'ai la chance aussi de travailler dans un organisme qui nous forme beaucoup.
Ok.
Donc, et ça, c'est primordial.
Mais t'as développé une compétence, faut pas être trop humble sur ça. Non, c'est vrai. Enfin, tout ce que t'as, j'imagine, pu expérimenter en foyer, t'arrives maintenant à transposer. Tu as des réflexes de fonctionnement, etc., des habitudes chez des personnes. J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu, vu que t'interviens aussi auprès des parents.
Oui.
Et que le répit, et le besoin de répit, c'est quand même un gros sujet dans le handicap. Je voulais savoir ce que toi, tu avais constaté auprès de ses parents, si tu avais relevé des choses qui seraient intéressantes à transmettre à des personnes qui n'ont pas connaissance de ce dont peut ressembler un quotidien pour un parent qui a un enfant porteur de handicap.
Alors, très bonne question. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin de répit, au final. Dans la plupart de mes situations, beaucoup de familles sont, je pense, à cran et ça tient sur un fil. Nous, on fait avec les moyens qu'on a. Et malheureusement, c'est quelques heures par semaine qu'on propose. Il y a des familles, des fois, qui n'ont que ça.
Mm-mm.
Ou souvent, on peut aussi compléter une autre prise en charge, un autre accompagnement. Je vois beaucoup de familles qui sont dans une difficulté avec leurs enfants, donc qui sacrifient leur vie professionnelle.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Si voilà. Du coup, tu avais constaté qu'il y avait un, voire les deux peut-être, des parents qui s'arrêtaient de travailler pour...
Et souvent, hein, au moment où on arrive, des fois, il y a déjà une rupture familiale où vraiment, en fait, le quotidien d'une famille, il prend beaucoup.
Oui, bien voilà. sûr. Il empathie beaucoup de la situation voilà. où, du coup, l'enfant... C'est un métier de prendre en charge un enfant porteur de handicap et parent et peut être le plus beau métier du monde si on veut, hein, mais c'est quand même un sacré travail là,
voilà.
pour le coup.
Là, pour le coup, c'est un travail.
Et ça demande d'avoir des connaissances sur comment on prend en charge, même quand c'est son enfant et qu'on le connaît très bien. Mm-mm. C'est les premiers à les connaître aussi bien, c'est pas ce qu'on dit.
Donc souvent, par exemple, dans mon service, on peut proposer des formations pour les parents aussi,
okay.
les aidants. Et
ce
qui est vraiment, je trouve, bénéfique pour tout le monde parce que ils sont en difficulté. En fait, le système en France fait qu'on les met en difficulté par manque de place. Ils essaient de trouver des solutions, mais il n'y en a pas. Moi, j'assure un peu un soutien à la parentalité. Et tous les jours, voilà, je sais que j'ai des parents qui peuvent se confier à moi. Et des fois, qui peuvent avoir des mots durs, hein, mais ce qui est totalement légitime et humain. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, personne n'aimerait être à leur place. Il y en a qui arrivent à très bien gérer la situation, et c'est bien. Et voilà, il y en a, c'est un peu plus fragile, parce que ils se retrouvent seuls. Il y a des fois un des parents qui n'est plus là. Et puis voilà, tout dépend aussi des difficultés de l'enfant, des troubles
bien
du comportement
sûr.
Aussi qui développent, parce que...
On n'a pas trop précisé, mais parfois, j'imagine pour avoir déjà quelquefois vu, les enfants, jeunes adultes porteurs d'autisme peuvent être dans une forme de violence très
C'est
forte,
ça. Oui.
en fait.
Voilà.
Quand tu disais, je reprends tes mots, que des parents se confient à toi, qu'ils ont des mots durs, comment toi, en tant que jeune professionnel, mais voilà, parce que ça fait pas 20 ans que tu es sur ces politiques, ce genre de poste, etc., comment toi tu arrives à garder la bonne distance? Est-ce que c'est compliqué pour toi de ne pas ramener un peu des choses chez toi et de... Tu vois, de se dire, waouh, aujourd'hui c'était un peu chaud, un peu intense, ça me prend un peu la tête quand je suis rentrée chez moi. Ou est-ce que, non, toi t'as la bonne distance quand tu fermes la porte, tu fermes la porte?
Non, moi je pense avoir plutôt la bonne distance parce que, voilà, en fait, je me dis, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait ce que je pouvais faire. Après, on peut être frustré parce qu'on ne peut pas offrir de solution et qu'en fait, à notre niveau... voilà, il faut se dire qu'on n'est pas non plus des super héros. Je me dis, je fais le mieux que je peux. Je fais avec mes connaissances. Et puis, il faut être quand même bienveillant avec les gens. Et à partir de ce moment-là, je pense que déjà, avec de la bienveillance... avec cette relation de confiance qu'on peut créer
Bien sûr.
Les parents, les partenaires, etc. Je pense que déjà, on a fait la moitié de notre travail. Après, voilà, il y a tout l'aspect voilà, éducatif, où on soutient aussi l'enfant, qui est très, très importante également. Ça n'affecte pas ma vie personnelle. Voilà, comme je dis, on peut être frustré par moments en se disant... Bon, voilà.
J'ai pas de solution.
Voilà. Les parents sont pas bien, l'enfant est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors après, ça, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une équipe et on peut vraiment revenir un peu sur nos accompagnements. Mais voilà, moi, ça, je laisse ça vraiment au travail et c'est important. C'est important. Il faut relativiser et il faut. Amener voilà de la bonne humeur et aussi des choses où dans lesquelles les enfants peuvent s'épanouir, donc il faut être fort de proposition.
Ça te demande d'être en réflexion tout le temps. En fait,
c'est
et
ça.
Du coup, est-ce que vous intervenez seul plutôt souvent, j'imagine, au domicile? Tu as des références qui sont à toi, entre guillemets, qui te sont données, et tu interviens seul, mais est-ce que du coup tu as des moments, des temps pour partager en équipe avec des collègues sur tiens, comment tu ferais ça? Et est-ce que tu retrouves un peu cette cohésion que tu avais dans ta promo, justement, qui était si importante que ça dans ton...
Oui,
quand t'es en centre de formation.
Au final, on a vraiment des temps où on échange, où c'est assez naturel. Et en plus de ça, en fait, on a une psychologue qui est là un jour par semaine avec
D'accord.
nous. Et en fait, qui soutient notre travail. Bon, vraiment... elle sera vraiment... En fait, son rôle, c'est... d'évaluer le niveau des jeunes, entre guillemets, un
oui,
niveau...
Oui, bien sûr, mais leur capacité.
Leur capacité
okay.
Cognitive, etc. Aussi au niveau des interactions sociales. Et puis, en fait, de faire des propositions d'aménagement adapté
okay.
et de support visuel.
Donc, tu as un étayage par
voilà.
un autre professionnel.
Tout à fait.
Et puis ton équipe.
C'est ça. Donc, vraiment, en fait, on peut échanger facilement sur nos situations. Et puis, en fait, on trouve des solutions ensemble. Et ça, c'est vraiment bien.
Ben, oui.
Et puis, voilà, dans la bonne humeur. Donc, c'est plutôt pas mal.
Cool. Est-ce que tu aurais une situation dans tout ton parcours? Il n'y a pas forcément une situation que là, dernièrement, mais voilà, depuis que tu es dans le champ du travail social, est-ce qu'il y a une situation que tu as envie de partager pour illustrer un peu le travail de moniteur éducateur, ton travail, par quoi tu as été traversée, une situation un peu marquante?
Alors oui, il y a une situation marquante et que je garde beaucoup à l'esprit et c'est voilà malgré qu'on soit juste éducateur, tous les jeunes nous marquent dans notre quotidien et voilà, je garde vraiment un bon souvenir malgré les difficultés avec cette jeune. Donc c'était sur mon poste en IME. C'était une jeune qui avait 12 ans.
Qu'est-ce qu'elle avait comme particularité?
Donc elle avait des troubles du spectre autistique, avec une déficience associée. Qui pouvait ne pas comprendre toutes les informations malgré les supports visuels, parce que elle était encadrée vraiment dans un IME spécialisé dans l'autisme. Et puis elle avait aussi beaucoup de troubles du comportement. Parce que ça pouvait être des troubles du comportement qui étaient développés parce que souvent, elle ne comprenait pas l'information, elle ne comprenait pas ce qu'on pouvait lui demander. Malgré tous ces petits supports visuels, au début, on a commencé avec des objets. Parce que, en fait, avant de passer à la photo ou l'image pictogramme, on commence par des objets. Parce que c'est plus significatif pour un jeune. Par exemple, une fourchette, ça signifie pour d'aller manger. Malgré toutes ces informations, elle pouvait aussi, encore développer beaucoup de troubles du comportement. Mais malgré tout, on a réussi à l'amener à faire des apprentissages scolaires. Du coup, à la moindre frustration, tout pouvait partir en vrille. C'est le cas de le dire.
Retournait le bureau. Mais en même temps, ça doit être hyper frustrant si on se décentre 5 minutes et qu'on se dit, mais je me mets dans sa peau. Vous me parlez, je ne vous comprends pas. Et c'est autre qu'une barrière de la langue. C'est une barrière qui est encore un level au-dessus. Quoi.
Et c'est là où, en fait, on s'aperçoit que l'important, c'est pas que le langage verbal. Il y a tellement de choses. Notre gestuelle, l'intonation de notre voix, comment on va aborder les choses aussi avec les jeunes. C'est tellement de choses à prendre en considération et à adapter en fait à chaque situation, à chaque jeune. En l'occurrence, cette jeune, malgré les difficultés, on a réussi à lui apprendre beaucoup de choses parce qu'il faut savoir aussi qu'elle est arrivée... elle a eu une place en IME, mais elle est arrivée sur une situation d'urgence.
C'était quoi la situation d'urgence? Pourquoi elle arrive en urgence?
Alors ça commençait à être vraiment compliqué au domicile. Elle pouvait développer de l'agressivité envers ses proches.
Est-ce que c'est des jeunes qui ont des traitements médicamenteux aussi?
Oui.
D'accord.
Des fois, je pense que les personnes qui sont très loin de tout ça, des fois, le soin est nécessaire. Même pour les détendre au niveau psychique, au niveau physique aussi, parce qu'il faut savoir que ces jeunes-là, ils sont tendus en permanence. Au niveau psychologique, ils doivent vraiment pas être bien. Nous, quand on s'énerve, on va pas développer de gestes brusques ou de choses comme ça. Mais déjà, on est dans un état mental qui n'est pas bon au final. Et eux, ils peuvent être comme ça toute la journée, angoissés, énervés, à tel point que ils développent vraiment des troubles du comportement et ils peuvent faire mal aux autres, malheureusement.
Et se faire mal. C'est aussi parfois les protéger un peu d'eux-mêmes et d'une mise en danger, évidemment.
C'est ça, tout à fait. Mais malgré tout ça, on a vraiment réussi à lui apprendre même des actes de la vie quotidienne, se laver les mains, parce que c'était une jeune qui était vraiment pas autonome. Donc apprendre à se laver, les passages aux toilettes, toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas. Pense que quand on n'est pas dans le secteur du social ou en tant que moniteur éducateur, éducateur, ou etc., je pense qu'on ne pense pas peut-être à tous ces petits détails.
Oui, qui paraissent assez naturels.
Inné chez tout le monde, dans le développement, on va dire, ordinaire de l'enfant.
Est-ce que ça t'apporte de la satisfaction de voir cette jeune évoluer, apprendre, devenir un peu plus autonome? C'est une satisfaction?
Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
C'est les, un peu les, entre guillemets, les seules gratifications, c'est de voir l'évolution des personnes qu'on accompagne, ouais,
ah et ben, le retour un oui, peu. Oui, ça c'est... Ben, à chaque fois, c'est un combat qu'on a gagné. Hein, donc,
et c'est puis... beau cette phrase, c'est un combat qu'on a gagné.
Et ensemble, et ensemble. Et voilà, et puis tout en se disant, ça va faciliter forcément son quotidien et le quotidien de ses proches.
Oui, bien sûr. Voilà. Il y a toujours ça, l'impact sur la famille. Ok, on va bientôt clôturer sur cette note positive.
Bah, en tout cas, c'était vraiment un échange super.
Voilà. Bah, merci. Merci à toi. Avant de se dire au revoir quand même, j'ai trois petites questions à te poser.
Say me.
Si tu avais la fameuse baguette magique, tout à l'heure tu disais on n'est pas des super-héros. Et ben si tu étais un super-héros ou si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais voir changer?
Alors tout simplement, je créerais autant de places nécessaires qu'il y a d'enfants en situation d'handicap. Ouais,
qu'il faut dans ton secteur.
Voilà, ouais. Et que les places vraiment soient adaptées parce que. Alors en ce moment, voilà, il y a beaucoup l'inclusion pour tous,
ouais.
qui est bien d'un certain point de vue, mais sauf que certains jeunes ont de telles difficultés que ce qui est encore adapté pour eux, c'est un institut médico-éducatif où il y a vraiment ce cadre rassurant pour eux. L'école souvent leur apporte beaucoup trop de stimuli, de tensions, et puis leur rappelle que ils ont pas le niveau, pas
marque,
le même niveau.
Marque la différence. Voilà, en tout cas, ouais.
Avec leurs camarades. Donc moi, je verrais pour ça. si j'avais une baguette magique et que je pouvais claquer des doigts et ça aiderait beaucoup de familles, je pense. Parce qu'au lieu de soigner une personne, à l'heure actuelle, on doit soigner toute une famille.
Prendre soin de...
Voilà.
Ouais, évidemment. Si tu avais envie de faire autre chose, ce serait quoi?
Alors si, alors là je me pose pas trop la question pour le moment parce que je vais bientôt passer ma VAE d'éduc spécialisée.
Super.
Des fois je me pose la question pourquoi pas un jour être famille d'accueil ou mettre à mon compte.
Toujours dans le secteur du social du coup.
Ouais, je pense dans un premier temps. Après dans un second temps peut-être changer totalement de secteur parce que je pense que dans le social c'est bien de changer. Moi, je sais que souvent, voilà, j'ai pu changer de poste et je trouve que ça nous permet d'avoir un recul sur notre pratique qui est nécessaire et c'est enrichissant vraiment à chaque fois de découvrir un nouveau public. Peut-être qu'on s'épuise aussi.
Peut-être.
Voilà. Donc, peut-être que je changerai totalement de secteur et je te dirai ça peut-être dans 10 ans. si je suis encore là.
Si t'as pas, si t'es pas parti faire autre chose.
C'est ça.
Ok. La question de l'invité précédent, puisque du coup, c'est un peu une routine que j'essaie d'installer dans les épisodes, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant.
Donc, très bonne idée.
L'invité juste avant toi posait comme question, pourquoi tu es arrivé dans le secteur du social? Pourquoi tu fais ça?
J'ai cette capacité à m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi, mais aussi j'ai cette compassion au final qui... je me dis que je fais un beau métier et que ça sert. Après, un peu inné aussi de venir dans ce secteur-là.
Ok.
Voilà.
Bon, non, mais c'est la question qui est la plus, je trouve, difficile à répondre. Ouais. Finalement, ça demande quand même une introspection un petit peu, se poser la question. C'est souvent des questions en plus qu'on nous pose en début de formation. Pourquoi vous voulez faire ce métier? Pourquoi vous êtes là? Et c'est toujours, je trouve, c'est une question très exigeante, en tout cas. Mais merci pour ta réponse. Et je te laisse, du coup, poser la question au prochain invité. Voilà, à là ou au prochain invité.
Alors, pour le prochain invité de Camille, ma question sera qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton premier job?
Ok, je note du coup pour le poser. Merci beaucoup Marion pour cet échange. J'espère que ça aura éclairé beaucoup de personnes sur le monde du handicap, de l'autisme et que ton parcours pourra inspirer en tout cas. Merci beaucoup.
Merci Camille.
If you're a thinker alone, you are wrong. what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud, because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud.